Bonsoir, l'opposant Martin Fayulu, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, et Fidèle Sigle plaide pour la tenue d'un dialogue entre la classe politique congolaise sur la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est entre autres de renforcer la cohésion nationale. Dans un discours posté sur les réseaux sociaux, Martin Fayulu a insisté sur l'importance de l'unité nationale. Il s'est dit exaspéré de voir d'autres nations progresser et prospérer alors que la RDC régresse. Que pensez-vous de cet appel de Martin Fayulu? Nous en parlons ce soir avec Jean-Baptiste Omwindo Kasekwa, député honoraire et notable de Goma au Nord Kivu. Il est vice-président de l'ECID, parti membre de la coalition Lamuka. Jean-Baptiste Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir, madame. Okay.
Aussi avec nous dans ce débat, Peter Kazadi, avocat. Il est député national, élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir, Félix. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, le professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur Jeff Mudimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame Kedine, et bonsoir à tous les co-débatteurs ainsi que tous les citoyens congolais qui nous suivent en ce moment.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur l'ISTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
L'opposant Martin Fayulu appelle à la cohésion nationale et plaide pour un dialogue de toutes les filles et tous les fils de la RDC autour des chefs spirituels. Le président de l'ECID a lancé cet appel samedi 24 août depuis les États-Unis où il séjourne. Il rappelle qu'il est temps de s'unir comme un seul homme pour soutenir l'intégrité nationale, l'intégrité territoriale, voilà, et lutter contre l'agression rwandaise. Les condensés de ce communiqué avec vous, Karine Topé.
Depuis les États-Unis, où il a participé au congrès du Parti démocrate, l'opposant Martin Fayulu a plaidé pour la tenue d'un dialogue inclusif de la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. L'objectif de cette démarche, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale et de soutenir l'intégrité territoriale de la RDC alors que le pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du groupe rebelle M23. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux samedi 24 août, Martin Fayulu a insisté sur l'importance de l'unité nationale. Il explique qu'aujourd'hui, la seule solution pour les Congolais et pour toutes les parties prenantes, c'est de se mettre autour d'une même table comme un seul homme afin de contre-attaquer le Rwanda avec un esprit d'engagement et un esprit patriotique. Martin Fayulu se dit exaspéré de voir d'autres nations progresser et prospérer alors que la RDC régresse.
Merci Karine Topé. Jean-Baptiste Omwindo Kasekwa, vous êtes vice-président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement. Et si dans sigle, c'est un parti membre de la coalition Lamuka. Je rappelle aussi que vous êtes député national honoraire. Le président de votre parti politique, appelle à un dialogue entre la classe politique congolaise sous la médiation des chefs spirituels. Qu'est-ce qui motive cet appel? Pourquoi cet appel au dialogue?
Dans son discours du 30 juin 2024, le président de l'ECID, Martin Fayulu, disait ce qui suit. En toute responsabilité, je demande à M. Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais, pour les Congos, de se raviser et d'intérioriser le slogan d'Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées afin de permettre au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas, disait Martin,
de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, mettre fin aux crises politiques récurrentes et assurer le bien-être de notre pays, de notre peuple qui souffre. Fin de citation. Cet appel que Martin a réitéré à partir de son séjour aux États-Unis avait été formulé comme la sixième résolution du Conseil national de notre parti, Conseil national tenu à Kinshasa, du 1er au 5 mars. Nous avons, au cours de ce conseil, examiné la situation sécuritaire de notre pays, la situation politique, la situation sociale, la situation économique. Et au plan sécuritaire, nous avons constaté avec beaucoup d'amertume que, à l'allure où vont les choses, si nous ne constituons pas un front patriotique dans les jours qui viennent, nous risquons de nous retrouver à nouveau dans une situation identique à celle décrite au paragraphe 2 de l'exposé des motifs de notre Constitution, qui dit que la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs a atteint un relief particulièrement inquiétant à 96-98. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Monsieur Félix lui-même, il n'est pas à mesure aujourd'hui d'aller à Kanyabayonga, d'aller à Rutshuru, même d'arriver à Goma. C'est-à-dire des pans entiers de notre territoire national échappent au contrôle même du pouvoir en place. Est-ce que c'est normal? Et si, après avoir fait sauter le verrou de Kanyabayonga, si les supplétifs du Rwanda demain nous assénaient à nouveau un coup, peut-être vers Butembo, vers Beni et vers l'Ituri, ou vers le sud Kivu, quel devient le pays? Pourquoi ne pas constituer un front patriotique tel que nous l'avons vu en France lors des attentats de Paris? Toutes les forces vives, toute la classe politique a dit, il y a un pays à sauver. En Ukraine, on voit. En Israël, on voit. Mais ici, quel est le contexte? La réalité est telle qu'il y a des graves frustrations nées des différents hold-up électoraux successifs. Depuis 2018, la manière dont le pouvoir a été transmis à violation totale de la volonté du peuple, a créé des frustrations. Les simulacres d'élection de 2023, avec des discours de campagne incendiaires, ça et là, a détruit davantage le tissu social, de sorte que la désunion nationale est trop forte. Or, dit la Bible, un royaume divisé ne peut pas subsister. Si donc nous ne nous mettons pas ensemble, à vidant toutes ces frustrations, eh bien, nos agresseurs seront en train de trouver.
Et vous pensez, Jean-Baptiste Cassé, quoi, qu'en vous mettant ensemble, qu'en organisant ce dialogue, la guerre prendra fin?
Mais madame, par exemple, en 2003, je peux vous dire que le Rwanda n'était pas d'accord que le RCD signe l'accord global et inclusif. Et même le RCD, beaucoup d'autres acteurs, des composantes de l'époque n'ont pas signé l'accord global inclusif de leur propre gré ou de bonne foi. C'était parce qu'il y avait une forte mobilisation nationale de tous côtés. Toute la nation était mobilisée pour dire nous devons sauver le pays. Lors de l'aventure du CNDP contre Bukavu, ce qui a sauvé le pays, c'est la mobilisation nationale. En 2012, pareillement. Or, aujourd'hui, du fait de ces frustrations profondes provoquées par ces hold-up successifs, eh bien, chacun se résigne dans son coin. On n'est pas en mesure, on n'assiste pas à un front populaire patriotique pour contrer la menace de balkanisation. Et ça, c'est un danger.
Alors, vous revenez sur les frustrations. On a l'impression que ce dialogue, ça sera pour régler toutes ces frustrations qu'il y a au sein de l'opinion, d'une partie de l'opinion, parce que ce n'est pas tout le monde qui n'est pas d'accord avec le président Tshisekedi.
Bon, en fait, Madame Kelly, il faut sortir du déni. Après le hold-up électoral de 2018, Martin Fayoulou a lancé la proposition de sortir des crises. Et les gens ont dit qu'il n'y avait pas crise, que l'on pouvait continuer. Certains, de bonne foi, ont même dit que du mal pouvait sortir le bien. 6 ans après, la réalité est devant nous, il y a réellement crise. Est-ce que nous devons continuer tel que nous sommes? Mais à côté du volet de la défense de l'intégrité territoriale, l'appel du président Martin Fayoulou réside aussi dans le fait de nous garantir que 2028 ne sera pas comme 2023 ni comme 2018. Si nous laissons à nouveau le pouvoir à place, instrumentaliser la CENI telle qu'elle l'a fait, la Cour constitutionnelle, la loi électorale, le processus d'enrôlement, est-ce que nous sommes prêts à nouveau de souffrir d'un simulacre électoral à 2028? En fait, progressivement, nous sommes en train de vider le pacte républicain de San City de tout son contenu, au risque de légitimer à nouveau le recours à la force, à la violence, pour accéder au pouvoir, pour exercer le pouvoir. Or, ces violences, nous avons un bilan triste. Depuis le coup d'état de Mobutu avant, nous avons été à San City pour mettre fin à ça. Malheureusement, nous avons d'un côté des agresseurs extérieurs, dont le Rwanda et l'Ouganda, mais des agresseurs internes qui violent la Constitution en prenant le pouvoir à violation donc de cette Constitution. Et ça crée des frustrations. Si nous ne les vidons pas, eh bien, nous ne sommes pas dans une disposition de parler le même langage au plan diplomatique, au plan de la mobilisation de l'opinion à l'interne, et ça, ce n'est pas pour notre bien. Alors,
donc l'objectif n'est pas seulement de soutenir l'intégrité territoriale, comme l'a dit Martin Fayoulou, mais c'est de régler toutes ces frustrations qu'il y a au sein de certains partis politiques par rapport au hold-up électoral, comme vous dites, qu'il y a eu.
L'objectif, l'appel a 2 volets. Le premier volet, la défense de l'intégrité territoriale qui est menacée. Je ne voudrais pas vivre dans une situation quand on parle de la RDC comme de l'ex-Yougoslavie, qui est décédée. Les États meurent. Or, la situation de la RDC aujourd'hui est extrêmement critique. Je ne voudrais pas vivre, voir mon pays aller dans une situation identique à celle de la Libye ou de la Somalie ou de Haïti. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Goma, à Beni, à Netouri, dans le sud Kivu, la situation dans laquelle la ville de Goma se retrouve aujourd'hui, la situation de Kwamout, dans les Maïndombe, dans le Bazouélé et autres, c'est un non-État. Et donc ça, c'est un premier volet important pour lequel nous estimons que nous devons nous arrêter à dire « Filles et fils du Congo, est-ce que Mboka est en Mboka Ndengewana ?» Disons-nous la vérité, les gens se disent jusque-là, ça va parce qu'ils ne sont pas encore victimes des viols, victimes de ces massacres. Mais en réalité, le pays a dépassé le stade du tolérable. Et donc ça, c'est un premier volet important. Mais ce volet-là n'est pas solvable si nous ne réglons pas également le deuxième volet, le volet de l'organisation d'élections transparentes, crédibles, impartiales, qui nous permettent d'avoir des dirigeants légitimes plutôt que d'assister à ces scénarios depuis 2006, 2011, 2018, 2023. Non, nous devons vider toutes ces frustrations-là et éviter que de plus en plus les gens ne légitiment des prières vers un recours à la force, comme peut-être au Burkina et autres. Ce serait un très grand recul en arrière. Alors que par notre constitution, par l'accord global et inclusif, nous avions réglé ça. Et donc tous les républicains qui croient qu'on peut encore sauver le pacte de San City doivent s'arrêter, qu'on se retrouve, qu'on se parle, non pas pour partager le pouvoir, dit Martin Fayoulou, dès que nous vidons ces questions et que nous créons les conditions d'un front patriotique et nous mettons les garanties d'élections crédibles prochaine, eh bien, pour nous, l'objectif du dialogue aura été atteint.
Maître Peter Kiazagi, avocat et député national élu de la ville de Kinshasa, cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation, que pensez-vous de cet appel de Martin Fayulu qui appelle à la cohésion, qui demande un dialogue entre la classe politique congolaise? Sous la médiation, je n'oublie pas, des chefs spirituels. Je vous reposerai la question, Jean-Baptiste Kasekwa, pourquoi sous la médiation des chefs spirituels? Ça sera juste après l'intervention de Peter Kazali. Vous avez la parole. Hein?
Oui, merci, Kelly. D'abord, je tiens à saluer l'ouverture de Martin Fayulu lorsqu'il appelle à l'unité et à la cohésion nationale. J'ai suivi que cet appel contient des objectifs majeurs. Le premier, c'est appel à l'unité pour la défense de l'intégrité territoriale. C'est que tout citoyen, tout patriote doit appeler de tous ses voeux. C'est déjà très positif. En deuxième lieu, j'ai entendu dire qu'on voudrait aussi qu'on discute autour de l'organisation d'élections crédibles et transparente. Mais c'est mal les tons utilisés par l'émissaire de M. Fayulu sur les ondes. Ça contraste avec les objectifs poursuivis lorsqu'il développe, il fustige des élections, il fait allusion à des choses qui peuvent pousser davantage à la division. Je trouve ça contradictoire. Ce qui fait sombrer notre pays, qui fait stagner notre pays, j'ai entendu dire que M. Fayulu s'était déclaré exaspéré de voir d'autres nations prospérer. Uh-huh. Mais ces nations-là prospèrent parce qu'ils ont des citoyens consciencieux qui ne voient que l'intérêt général du pays. Ici, nous assistons à l'égoïsme des politiques, l'orgueil. Parmi les caractéristiques majeures des hommes politiques congolais.
De tout bord.
De tout bord, bien sûr. Je ne vais pas faire la distinction. Mais il faut qu'on mette ce orgueil un peu de côté. C'est cet amour exagéré de soi que les politiciens nous avons. Si nous mettons ça de côté, si nous privilégions seulement l'intérêt du peuple congolais, je pense que nous pouvons aller de l'avant. Et ces critères de nationalisme, d'amour du pays, se trouvent bel et bien dans les chefs du président Félix Tshisekedi. Cet appel de Fayulu, je pense, ne vient que corroborer ce qu'a toujours été la volonté du président de la République. Souvenez-vous, au lendemain des élections de 2018, alors que M. Matungulu était parmi les opposants farouches qui ont joué un rôle néfaste à Genève, dans la messe noire qui était montée contre le président Tshisekedi, mais lorsqu'il s'était agi de recourir à des compétences de ses compatriotes, le président Tshisekedi n'a pas tenu compte des accrochages politiques que nous avons eus avec M. Matungulu. Il a fait appel à lui pour représenter le pays dans une des plus hautes instances internationales, sans tenir compte de sa provenance politique. Et les exemples sont des gens, il y a des opposants avec lesquels nous avons composé hier. M. Katumbi a fait partie du gouvernement, à un moment donné, il a choisi de retourner dans l'opposition tout simplement parce qu'il avait besoin de devenir président de la République. Donc c'est là que j'invoque l'égoïsme. Donc, aujourd'hui, lancer l'appel pour la cohésion aux fins de défendre les territoires nationaux, moi j'applaudis ça de demain. Mais je donne un conseil, qu'on soit modéré, parce que chacun de nous, s'il met en exergue son orgueil, nous pouvons nous dire des choses. On peut, si j'étais de mauvaise foi, je peux dire que M. Fayulu est fatigué de faire l'opposition. Maintenant, il veut discuter. Mais je ne vais pas aller là-bas. Moi, j'apprécie que nous puissions tous nous unir autour de la nation, parce que sans cette nation, personne ne saura faire ni l'opposition ni exercer les pouvoirs. Donc, nous devons nous unir pour défendre l'intégrité de notre pays en en évitant d'utiliser des gros mots tels que je les ai entendus ici. Je vais m'efforcer de ne pas suivre les compatriotes cassés, quoi, dans ces discours d'opposants. Ils formulent la demande, ce que d'ailleurs le président Tshisekedi avait déjà formulé, il avait appelé à l'unité. Je pense que M. Fayoulou répond à cet appel, et moi je ne trouve pas d'inconvénient que nous puissions aller vers cette unité du pays pour effectivement défendre notre pays.
Alors vous êtes d'accord avec le premier volet de l'objectif poursuivi par cet appel de M. Fayoulou, c'est-à-dire l'unité pour la défense de l'intégrité territoriale, mais pour ce qui est de mettre en place des mécanismes pour des élections crédibles en 2028 plutôt, vous n'êtes pas d'accord. Vous pensez qu'il faut rester sur la cohésion nationale et l'unité pour la défense et l'intégrité territoriale?
Non, mais je ne vois pas pourquoi je peux refuser la transparence des élections. Nous venons de connaître des élections et nous savons qui est le vainqueur. Le problème, c'est l'orgueil des politiciens qui refusent d'admettre lorsqu'ils ont perdu. Ces refus d'admettre les résultats des élections, c'est ce qui caractérise les Congolais. Même au sein des formations politiques, vous trouverez dans une même formation politique, lorsque l'un gagne, l'autre perd, et le perdant va crier à la tricherie, il va même accuser son collègue qui a réussi aux élections d'avoir été visité, qui les juge, qui les membres de la CENI. Donc ça, il faut bannir ça. Donc, moi, je suis d'accord qu'on aborde les questions de la transparence des élections. J'estime que le processus électoral, c'est un processus, comme je venais de le dire, il ne manque pas de faiblesses, mais nous devons travailler à relever ces faiblesses, les réduire le plus possiblement pour que les résultats puissent satisfaire tout le monde.
Alors, Martin Fayoulou dit qu'il en fait, se dit exaspéré de voir d'autres nations progresser, prospérer, alors que la RDC régresse, Maître Peter Kazadi.
Il est responsable quelque part. Quand je dis il est responsable, c'est-à-dire la classe politique, si tous nous nous mettions au service du peuple, sans émettre en exergue nos propres intérêts, je pense que nous n'en serions pas là. M. Fayoulou, c'est un acteur politique qui date de longtemps. Il a joué un grand rôle sur la scène politique, notamment lorsqu'il était député provincial dans la ville de Kinshasa. Nous avions assisté à des révélations sur son comportement pendant qu'il était député provincial, dans ses acquaintances avec l'ancien gouverneur de la ville, ce qu'ils ont fait ensemble. Donc tout ça, ce sont des choses qui font reculer les pays. Si chaque politicien mettez dans sa tête qu'il est au service d'abord du peuple avant de se voir lui-même, notre pays ne serait pas là où il est aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes aux affaires, c'est vous qui gérez.
Bien sûr, depuis que nous sommes aux affaires, quand bien même que vous entendrez les sons des cloches de l'opposition dénoncer ce qu'on appelle des détournements de gauche à droite, mais ces détournements ont existé depuis que ce pays est indépendant. Vous ne verrez en aucune période où ça a été décrié que, comme maintenant. Cela ne signifie pas que c'est maintenant que ces détournements sont perpétrés en masse, mais c'est tout simplement un signe que les détournements sont en train d'être combattus, puisqu'on en parle. Mobutu a régné, on ne parlait pas des détournements, Kabila père est venu, on en a parlé pendant un temps et puis ça s'était éteint. Sous Kabila, n'en parlons même pas, personne ne parlait des détournements, alors que tout le monde savait qu'on détourne dans ces pays. C'est sous le mandat de Félix Tshisekedi qu'il y a des dénonciations commandées par les services attitrés sous l'administration du président Tshisekedi. Donc ceci, c'est la bonne volonté du régime actuel qui tend à combattre les détournements des deniers publics.
Combattre lorsque certains présumés détourneurs sont blanchis.
Laissez-moi d'abord. Laissez-moi terminer. Au lieu que cela soit applaudi, que sous les mandats du président Tshisekedi, on dénonce ceux qui sont présumés détourneurs, mais on prend ça pour utiliser contre les régimes qui luttent justement contre les phénomènes de détournement. Si on en parle assez, c'est parce qu'on n'en veut pas. On veut dénoncer qui que l'on soit. Lorsque vous êtes trempé dans la mégestion, on vous dénonce. Et c'est ce qui doit se faire normalement.
Et après, vous êtes blanchi.
Avec ces dénonciations, je pense que les détournés seront découragés.
Merci.
Donc, c'est un point positif qu'il faut mettre à l'actif du président Tshisekedi.
Professeur Jeff Modimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Professeur, que pensez-vous de cet appel de Martin Fayulu?
Bien, merci beaucoup, madame. Avant de pouvoir me prononcer sur cet appel, je voudrais faire remarquer que les divisions ont toujours caractérisé les acteurs politiques congolais depuis que ce pays est indépendant. Mais on se souviendra aussi que lorsqu'il fallait lutter pour une cause commune, les dirigeants de la Première République, que l'on pouvait peut-être qualifier de moins intellectuels, avaient réussi à enterrer leur hache de guerre pour regarder tous dans un même sens, de manière à réclamer l'indépendance de la RDC. Parce que nous le savions qu'il y avait des divisions entre les unitaristes et les fédéralistes. Donc quand il fallait maintenant réclamer l'indépendance, tous étaient unis comme un seul homme. La science nous apprend que le conflit n'est pas que dysfonctionnel. Le conflit peut être aussi fonctionnel. Surtout quand il s'agit d'un conflit externe. Le conflit externe permet ou renforce la cohésion interne d'une organisation. Mais ce qui gêne en RDC, c'est que les réalités auxquelles on assiste échappent complètement à toutes les théories scientifiques. Face à cette agression étrangère, on pouvait constater qu'en interne, il y a une forte cohésion, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de la RDC. Voilà pourquoi je voudrais, en me ralliant aussi à M. Peter Kazadi, saluer l'appel de M. Fayulu pour que les Congolais se soudent les coudes, que nous puissions tous marcher dans un même sens de manière à bouter loin de notre territoire l'ennemi. Alors, donc, cet appel-là vraiment est très noble, il faut saluer. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir est-ce que réellement, au-delà de ça, il n'y a pas des agendas cachés. Et moi, j'estime qu'il y a un agenda caché, et je vais essayer un peu de le démontrer. Je pense que si on doit créer un dialogue pour l'unité de manière à préserver l'intégrité de notre territorial, ce doit être le seul point à l'ordre du jour. Faire de sorte que réellement l'ennemi soit bouté hors du territoire. Mais si, aux côtés de ce point-là, on voudrait encore statuer sur régler les conflits internes concernant les légitimités des animateurs, c'est que on voudrait tout simplement user ou profiter de cette situation de l'agression étrangère comme un alibi, comme une bonne occasion pour poser les problèmes réels auxquels on voudrait obtenir une quelconque solution. Donc, les Congolais doivent se souder les coudes, bien entendu, pour combattre l'ennemi. Et lorsque on aura récupéré l'intégrité territoriale, lorsque on réussira à instaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de l'étendue du pays, je pense que c'est seulement après que on peut maintenant se réunir pour regarder qu'est-ce qui ne marche pas dans ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec la démarche selon laquelle dans l'évolution du monde, d'un pays, d'une organisation, à un moment donné, on doit être en mesure de s'arrêter pour se poser des questions pertinentes que voici. Où sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Que faisons-nous? Qu'est-ce que nous faisons de bien? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Comment on peut arriver à corriger? Ça doit être aussi des problèmes
des questions que nous nous posons et pour lesquelles nous devons arriver à trouver vraiment des solutions. Alors, si on dit par exemple que réellement le Congo connaît des problèmes sérieux sur le plan économique, sur le plan social, tout ça, ça c'est une évidence. Et ces problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui et nous ne pouvons pas nous consoler ou nous frotter les mains pour dire que non, ce sont les problèmes qui datent d'il y a longtemps et nous devons nous y habituer. Non, madame, on ne peut pas s'habituer à la médiocrité. Parce que je souhaite que nous puissions nous arrêter un moment pour arriver à faire quoi ? À corriger. C'est vraiment absurde, c'est vraiment regrettable. Les acteurs politiques ne parlent que du développement socio-économique de la population. Il y a des changements de régime, des changements de l'élite politique. Mais quand vous regardez la situation de la population dans son ensemble, mais elle est médiocre. Elle est médiocre. Est-ce que tous ceux qui nous gouvernent ont-ils perdu la mémoire, le cerveau ou qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons un tas d'intellectuels. Vous voyez même les échanges que nous sommes en train de faire au niveau de la radio Okapi. Personnellement, je me pose la question, est-ce que les acteurs politiques suivent? Dans tout ce que nous sommes en train de proposer comme solution, est-ce qu'ils peuvent aussi capitaliser certaines choses? Parfois, on observe que bon, nous faisons un dialogue de sourds, on ne s'entend pas, bon, ça passe, on dit que non, voilà, tel acteur politique, tel professeur est passé à la radio, et tout passe comme si c'était des faits anodins. Donc, je pense que la priorité actuelle pour la RDC, c'est de recouvrer l'intégrité du territoire, et c'est tout à fait évident que nous puissions nous unir. Mais curieusement, madame, dans cet état des choses de guerre, il y a toujours des Congolais qui tirent les ficelles de leur côté. Comme qui dirait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a parmi les Congolais les gens qui trahissent et qui n'acceptent même pas que vraiment cette guerre ici prenne fin. J'ai été à l'est du pays. Madame, quand vous voyez les constructions, vous voyez comment les gens sont en train d'investir. Vous n'allez même pas vous rendre compte que réellement ce pays ici est en guerre. Il y a des gens qui entretiennent cet état de choses parce qu'ils en tirent profit. Qu'en faire maintenant pour que tous les Congolais prennent conscience que l'intérêt du pays prime sur tout autre intérêt? Mais finalement, nous constatons que les Congolais aiment plus, d'une manière générale, les Congolais aiment plus leur poche que le pays lui-même.
Merci,
et
professeur.
Voilà ce qui explique un peu la situation dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver maintenant.
Merci, professeur. Merci à ces chers auditeurs et internautes qui sont très très nombreux à nous suivre à travers toute la République. Mbeni Thierry depuis Bukavuville, Alexandre depuis la province du Haut-Katanga, dans la ville de Likasi, Dimitri Maele nous suit depuis Kampala, en Ouganda, Patrick Kaeche à Kinshasa, Pascal Kembo, Kolwezi, Marcelin Kadima, vous êtes à Lucha, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Obed Dongo, depuis le territoire de Kwamout, dans la province du Maïndombe, Alexandre Poutine, merci. Idi Mamba, merci de nous suivre depuis Goma. Michel, depuis la province du Kasaï, Tshikapa, merci beaucoup. On va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui appellent, qui veulent donner leurs avis sur le thème de ce soir. On va prendre cet auditeur de Kinshasa.
C'est Martin. Par contre, je vous appelle depuis Kinshasa. De mon point de vue, le dialogue en démocratie devrait être quelque chose de permanent entre les acteurs politiques. Les demander, tel que le fait le président Martin Fayoul aujourd'hui, c'est comme s'il y a quelque chose qui se cache derrière. La seule, si seulement l'histoire, c'était pour terminer la guerre. Alors, je crois qu'ils peuvent se mettre pour écrire leurs propositions et amener au président, se mettre au président pour des résolutions. Mais faire aujourd'hui, concernant tout immutable, pour régler la question de la guerre, c'est une perte du temps.
Alors, Jean-Baptiste Kassé, quoi? L'auditeur pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cet appel. Si c'était seulement pour mettre fin à la guerre, faites vos propositions par écrit et envoyez au président de la République.
En 2019, lorsque Martin Fayoulou a fait la proposition de sortie de crise après les hold-up électorales de 2018, il lui a été répondu de cette même manière que Akende a déposé proposition à l'Assemblée nationale. D'autres ont dit qu'il était même demandeur d'emploi. Et c'est ce que j'attends ici, les petites phrases qu'insinue Peter Kazadi, que Martin est fatigué de faire l'opposition. Que... Non. En 2019, on s'est moqué de sa proposition de sortie de crise. Et aujourd'hui, je pense si on n'est pas de mauvaise foi, eh bien, on est obligé de reconnaître que la situation s'est détériorée davantage. Après les hold-up électoraux de 2011, Martin Fayoulou, coordonnateur de la dynamique et Tshisekedi du président, avait à nouveau piloté la demande pour un dialogue et dire, s'il vous plaît, ce qui vient de se passer à l'issue de ces élections de 2011 est inacceptable et va engendrer des conséquences graves. On s'est moqué de ça. À lieu place de ça, on a organisé des concertations nationales pour se partager le pouvoir entre copains. C'est ce que quelqu'un a appelé dialogue entre copains. Ce n'est pas ce dont Martin a besoin, ce n'est pas ce que nous réclamons. 2018, disais-je, on s'est moqué et a lieu place d'un véritable dialogue pour qu'on se parle comme fils et filles de ce pays. On a organisé les fameuses consultations nationales en 2020. Qu'est-ce que ces consultations ont produit? Les résultats, nous en sommes là, au plan politique, au plan sécuritaire, au plan de la situation sociale des Congolais, au plan économique. Donc, nous pensons qu'il est temps qu'on s'arrête, comme le dit si bien le professeur, qu'on se parle entre fils et filles de ce pays. Voilà pourquoi, à l'issue du Conseil national, nous avons dit que le dialogue que nous réclamons porte sur les thèmes de vérité, réconciliation et cohésion nationale. Le prof a dit qu'on devait se limiter à parler simplement de comment nous créons un front commun contre l'agression. Mais, professeur, il n'y a pas de front commun, il n'y a pas de réconciliation sans vérité nationale. Nous avons tous suivi, par exemple, comment, à travers la campagne électorale 2023, on a monté des discours qui, jusqu'à ce jour, ont créé des blessures graves dans les cœurs de certains acteurs majeurs de ce pays, de sorte que, malgré leur bonne volonté à participer à un front commun, mais ils se disent, la manière dont j'ai été traité, eh bien, ça ne vaut pas la peine. Ne faut-il pas que nos pères spirituels nous aident à nous parler et à régler ces questions? Ce qui s'est passé, Peter Kazadi dit, les mauvais perdants ne veulent pas accepter les résultats des élections. Mais Peter, nous avons lutté ensemble lorsque nous avons été victimes du hold-up de 2011. Fallait-il accepter des contre-vérités? Vous êtes témoin de ce qui s'est passé en 2018. Mais pourquoi ne pas vous aussi vous remettre en cause et dire « ça n'est trop, Mboka et Tambola Kaboyete, répandons-nous, réconcilions-nous avec les autres Congolais pour que l'on reparte sur les bonnes bases. Pourquoi donner l'occasion à ceux-là qui estiment que plus à plus que les élections ne valent plus la peine parce que celui-ci avait des machines dans son domicile, celui-là, les élections étaient organisées sur 7 jours. Donc, nous sommes quand même des hommes et des femmes dotés de conscience et on regarde tout ce qui s'est passé, eh bien, nous devons corriger.
Alors, un dialogue sur la médiation des chefs spirituels.
Oui. D'abord, pourquoi les chefs spirituels? Nous sommes jaloux de ce que les questions du Congo soient réglées par des Congolais. Et l'expérience de Femo Senghor dans la conduite de la conférence nationale, l'expérience de la manière dont les évêques ont conduit le dialogue de la Saint-Sylvestre en 2016, nous a prouvé que les Congolais
ont la maturité nécessaire pour jouer à la réconciliation entre père, fils et fille de ce pays. Nous avons deux pasteurs, nous avons deux évêques qui sont dignes de confiance, qui sont préoccupés de la situation du peuple congolais, qui côtoient tous les acteurs politiques. Ils ont donc l'avantage de la connaissance de tout le profil des personnalités politiques congolaises, la connaissance des problèmes du Congo, l'expérience nécessaire.
Alors là, vous parlez des évêques, évêques catholiques ou...
Évêques catholiques, pasteurs...
Toutes les confessions religieuses.
Tout comme on peut trouver d'autres personnalités indépendantes, neutres, qui font preuve d'une force de caractère à l'intérieur de notre pays et qui peuvent nous mettre ensemble.
On va prendre ce deuxième auditeur qui nous appelle depuis... qui nous appelle depuis Kananga, voilà, au Kasaï central.
C'est Aziza Chikwayi, depuis Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Les opposants Martin Fayulu a pleinement raison du fait que notre pays est en train de traverser des périodes très, très difficiles, surtout l'attaque du M23 accompagnée par le Rwanda. Sinon, la solution doit être trouvée ici, à RDC et non ailleurs. Nous devons d'abord être unis, chercher l'opposition, chercher la société civile, chercher même ceux qui sont en train de gérer pour que nous trouvions la solution à la guerre qu'ils ont imposée par le Rwanda.
Maître Peter Kazali, brève réaction.
Je conseille à l'honorable Jean-Marie, Jean-Baptiste plutôt, d'être humble et modéré lorsque vous parlez de la paix. Il faut éviter les termes qui vexent, même lorsque vous considérez que vous avez raison. Lorsque vous êtes porteur d'un projet de la paix, on met de côté les ressentiments qu'on a pour privilégier les climats qui puissent favoriser les dialogues recherchés. Parce que si on va chercher des dialogues avec des arguments, des accusations qui frisent l'insulte, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez. Parce que lorsque vous dites réconcilions-nous avec les peuples congolais, moi je vous dirais que le peuple congolais n'a rien à voir dans les conflits des politiciens. Les luttes, ou bien ce qu'on veut présenter comme une crise interne aujourd'hui, n'est qu'une lutte de positionnement de la classe politique. Due à des frustrations, comme vous l'avez dit, les mauvais comportements, les mauvais perdants ne voulant pas admettre leur échec, ils veulent entretenir un climat comme nous l'avons assisté depuis 2019. M. Fayulu s'est battu contre les vents et les peuples n'étaient pas disposés à les suivre. Cela indique que les peuples n'est pas dans les luttes politiciennes. Le peuple a besoin de manger, de se vêtir, de se mouvoir. C'est ça. Ce sont là des besoins primordiaux de notre peuple. Et si nous étions une classe politique sérieuse, nous allions nous unir autour de ces besoins du peuple pour apporter des solutions, apporter à manger, apporter à se vêtir, à se mouvoir, et de perdre notre temps dans la lutte des positionnements. Vous avez bien posé la question, Kelly, pourquoi seulement les pères spirituels? Alors que nous sommes assez majeurs, moi je pense que la classe politique aujourd'hui, plus de 60 ans après notre indépendance, nous sommes assez majeurs. Et surtout que M. Fayulu a des relations personnelles, à la fois politiques et même d'ordre spirituel, puisque tous prient dans une même église avec le président Félix Tshisekedi. Ils peuvent se parler sans intermédiaire. Et le président Tshisekedi, c'est quelqu'un de très sincère. On n'a pas besoin d'appeler des gens qui peuvent même compliquer la tâche. La main tendue du président l'a été à tout le monde. À un moment donné, les Katumbi, Jean-Pierre Bemba, qui était en retraite avec Fayulu, avait saisi cette main. Aujourd'hui, on a continué la vie. Monsieur Fayulu est resté seul. Bon, j'ai continué à saluer sa démarche actuelle que je soutiens. Mais il faut être modéré pour ne pas provoquer des susceptibilités des autres. Lorsqu'on est porteur des messages de paix, on doit se comporter conséquemment. Je ne suis pas contre les chefs spirituels, les pères spirituels, comme on les appelle, mais Ils nous ont offert dans ces pays parfois des spectacles désolants. On a vu autour de la désignation du président de la CENI comment ces chefs spirituels se sont comportés. Ils se sont scindés en deux camps. Un camp composé de 6 confessions religieuses et un camp de 2 confessions religieuses. Nous avons vu les prises de position de certains de ces pères spirituels pendant la campagne électorale. Donc, il faut que la classe politique nous grandissions pour que nous puissions savoir nous parler nous-mêmes. Regardez, en France aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Mais les politiciens se parlent entre eux. Ils n'ont pas fait appel à leur clergé ou à des personnalités spirituelles pour venir les aider à régler leurs affaires. Donc nous devons grandir. Cessons de prendre les peuples en otage en nous servant de ces peuples pour obtenir ce que nous voulons politiquement. Ce n'est pas bien. C'est pas ça que les peuples attendent de nous.
Merci Peter Kiazadi. Les internautes sont très très nombreux à suivre cette émission. Voilà, on va lire au fur et à mesure vos réactions. Vous êtes tellement nombreux, mais on va prendre d'abord ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Cabinda, je pense, hein, depuis Cabinda, voilà.
Maître Charles Kalonji, avocat et enseignant des universités depuis Cabinda Ville. Si j'interviens à ce moment, à ce lieu, c'est parce que je trouve que la proposition de Mathieu Fayoulou est bien affichée. La priorité pour ce pays, c'est de promouvoir la cohésion nationale, en ce sens que le pays est beaucoup divisé, le pays traverse trop de conflits. Alors, il y a lieu de se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur l'avenir de la paix et une paix durable dans ce pays. Alors, question nous est de se mettre sur la table. Et comme il propose les chefs religieux, on ne retire pas, mais il faut joindre les grands chefs coutumiers et les chefs des ethnies pour que cette cohésion soit sociale et nationale.
Alors, professeur Moudimbi, Martin Paolo propose la médiation des chefs spirituels. Cet auditeur estime qu'en plus des chefs spirituels, il faut ajouter les chefs coutumiers et les chefs d'ethnie. Pour qu'on parle qu'on parle réellement de cohésion nationale.
Bien, merci beaucoup. Je pense que en RDC, il y a une crise d'homme et même une crise morale. Permettez un peu, ici je suis pessimiste. Il y a une crise morale et une crise d'homme à tous les niveaux, même au niveau des confessions religieuses. Il n'est un secret pour personne que tous les chefs religieux ici ont des positions. On sait que telle confession religieuse a telle position. Et tel autre soutient le pouvoir, tel autre est du camp de l'opposition. Regardez un peu les chefs coutumiers ou encore les chefs des tribus. Madame, il n'y a pas de personnalité. Ils vont se comporter comme des courtisans. Il suffit seulement qu'on leur donne, on leur offre un peu plus d'argent, ils prendront telle position plutôt que telle autre. Donc, je pense que on doit travailler quand même sur l'éthique de l'homme congolais. Et ça, c'est un problème sérieux qui se pose. Bon, je voudrais quand même au moins revenir sur son aspect et l'aspect qu'il a souligné de faire un front commun. Ça, c'est plus important. Mais au niveau de la procédure, c'est là que je voudrais un peu faire réfléchir autrement le représentant de l'ECID. Il est d'accord avec moi que nous devons faire un front pour combattre l'agresseur. Mais il s'oppose en disant comment nous pouvons former un front au moment où on n'a pas encore pansé nos blessures internes. Alors moi je pense que le problème se situe au niveau de la priorité même des actions à mener. Entre panser les blessures internes et combattre l'agresseur, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est prioritaire? Je pense que la priorité c'est d'abord de rechercher à recouvrer l'intégrité territoriale en combattant l'ennemi externe. Lorsque cette phase sera finie, et puis nous nous mettons ensemble entre nous et nous allons nous accorder.
C'est là que j'ai fait référence aux politiciens de premier rang lors de l'indépendance du pays. On savait qu'il y avait des luttes intestines entre les fédéralistes et les unitaristes. Mais lorsqu'il fallait réclamer l'indépendance du pays, mais ils ont enterré d'abord leur conflit pour arracher l'indépendance. C'est plus tard qu'ils vont maintenant commencer à se mettre d'accord sur la forme de l'État. Est-ce qu'il fallait une forme unitaire ou bien il fallait une forme fédérale? Voilà un peu comment moi je suis en train d'envisager les choses, mais je ne suis pas d'accord avec les chefs religieux. Madame, quand nous lisons Alain Lancelot, dans son livre « La participation des Français à la vie politique », il essaie un peu de parler. Est-ce que la société civile est-elle apolitique? Madame, l'apolitisme dont se réclame la société civile, c'est un faux apolitisme. C'est tout, soit un apolitisme par illusion ou un apolitisme tactique ou stratégique. Mais en réalité, tous les chefs religieux là-bas ont des positions. Et c'est une déclaration qui n'engage que moi au regard de l'observation que je suis en train de faire au niveau de la scène politique congolaise.
Merci.
Je n'accuse personne. Permettez, madame, je termine. Vous voyez, par exemple, les chefs coutumiers. Vous savez, ils vivent dans la précarité. Beaucoup de chefs coutumiers aujourd'hui voudraient vivre et dans l'aisance matérielle, conduire les véhicules, porter des cravates. Aujourd'hui, les chefs coutumiers ont oublié toutes les peaux des animaux qui symbolisaient leur tribu. Et il suffit seulement que l'on leur brandisse des montants mirobolants et vous allez voir qu'ils vont commencer à changer de position. Il y a une crise d'homme, nous devons façonner d'abord l'homme congolais, que nous puissions nous apesantir beaucoup plus sur les valeurs républicaines et les valeurs citoyennes.
Merci, professeur Jeff Moudimbi. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Merci à Désiré Routla qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Le dialogue, c'est bien. Nous avons un seul pays, c'est le Congo, mais pas pour le partage de gâteaux. Et Mary Baloukou Bia Mungu, depuis la ville de Goma au nord, qui vous, certains opposants, semblent se ranger derrière l'ennemi qui déchire les tissus économiques du pays, mais aussi le gouvernement semble avoir échoué la gestion d'une partie du pays au nom de l'égoïsme. Le Nord Kivu aujourd'hui est déchiré à cause de certains anciens membres du gouvernement congolais. Nous saluons l'initiative de Martin Fayulu, mais nous proposons que chaque parti mette de côté ses intérêts égoïstes et regarde tous dans la même direction afin de chasser l'ennemi, sauvant d'abord le pays. Jean-Baptiste Kasekwa, votre conclusion?
Martin Fayulu arrive ce samedi et à son arrivée, autour de ce thème de la cohésion nationale pour sauver la RDC, il va animer un meeting populaire au terrain Mambenga en Gili pour dire aux Congolaises et Congolais que l'heure est grave, que Mboka est en Mbulaka Boyete. Nous devons nous arrêter. Alors, ce n'est pas le dialogue de Martin Fayulu, c'est le dialogue de tous les Congolais. Il a fait des propositions sur les deux volets.
Mais d'autres parties prenantes vont proposer leur cahier de charge. Un auditeur, un internaute vous pose la question, M. Kessikwa, Paul Kawiz depuis Kolwezi, il veut savoir si les leaders de l'AFC seront aussi de la partie.
Alors, pour nous, le premier objectif du dialogue, c'est d'abord défendre l'intégrité territoriale contre l'agression. Il n'est pas question demain que l'on donne la voix à des supplétifs du Rwanda pour prétendre prendre à nouveau le pouvoir par les armes, ce serait un recul. Donc pour nous, nous sommes clairs là-dessus. C'est pas question de ça. C'est la nature de cette guerre d'agression que nous vivons. Nous la connaissons. J'aime bien mon frère Corné Nanga, mais désolé, il est venu se greffer sur une aventure. Donc peut-être comme fils de Goma, je connais la maîtrise,
Les M23 CNTP, ça s'appelait au départ Brigade anti-génocide Nangana Seria.
Alors, on retient que là, nous, ce n'est pas concerné.
Il n'est pas question de venir donner une table, n'est-ce pas, à l'agression. Bien au contraire, il est question de former un front commun pour mettre définitivement en échec ces complots de balkanisation de notre pays. Mais en même temps, il est question de se mettre autour d'une table pour définir des réformes nécessaires afin que des aventures, des agressions internes contre la Constitution ne se répètent plus.
Merci.
Avec ceux-là qui se sont amusés à violer la Constitution pour se maintenir au pouvoir de manière illégitime.
Peter Kazadi, votre conclusion, votre mot de la fin.
J'ai salué l'ouverture de M. Fayoulou. J'ai conseillé à ce que lui et son entourage se montrent modestes. Il s'agit de notre nation, de notre patrie qui est en danger, qui est menacée par l'étranger. Une armée étrangère, des armées étrangères d'ailleurs, occupent des pans de nos territoires. Il est temps que les Congolais, tant de la classe politique que de la société civile, s'immiscent autour du président de la République, garant de la nation, pour que nous puissions repousser cette agression étrangère. Donc, personne de censé ne peut s'opposer à l'idée de l'unité nationale, l'idée de lutter contre une agression extérieure. Je souhaite vivement que ces discours de Martin Fayoulou ne soient pas destiné à une consommation politique pour se référer à une santé politique. Il s'agit d'un besoin réel aujourd'hui de voir l'ensemble du peuple congolais s'unir autour du président de la République pour qu'ensemble nous puissions bouter l'ennemi dehors, que nous puissions, après l'avoir débouté dehors, nous concentrer sur les questions de développement. C'est en ce moment-là que nous pouvons nous regarder dans les yeux et parler comme des Congolais pour savoir qui doit faire quoi.
Merci, ouais. Maître Peter Kazadi. Merci à ceux qui nous ont suivis de partout. Vous avez été très, très nombreux à suivre cette émission depuis Luanda en Angola et depuis Washington aux États-Unis. Merci beaucoup. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.